debout. Prends-en pitié, ce pauvre fou. Achève-le une bonne fois. Va-t'en, oui, va-t'en. Ne reviens jamais plus. Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu, sans maître et sans publicité. Ce soir, c'est le Proton sort à bif. Et nous allons parler ce soir d'un excellentissime livre qui est malheureusement passé plutôt inaperçu, c'est bien dommage, qui s'appelle Cœur de banlieue, cœur comme l'organe qui bat, avec comme sous-titre « Codes, rites et langages ». C'est de David Lepoutre, et c'est paru en poche chez Odile Jacob. Alors, l'une des qualités et l'un des, non pas l'un des défauts, mais l'un des problèmes que pose ce livre maintenant, c'est qu'il a été écrit dans les années 90, au début des années 90. Personnellement, ce que je me demande, c'est à quel point la culture du smartphone, la culture des réseaux sociaux a modifié les observations, excellentes à nouveau, que David Lepoutre a opérées pour l'enquête de ce livre. En tout cas, une chose est certaine, c'est de très loin le meilleur livre que j'ai lu sur ce sujet des banlieues. Alors, des banlieues, non, excusez-moi, soyons plus précis, des grands ensembles dans la banlieue. En effet, David Lepoutre, pour rédiger ce livre, et peut-être en même temps pour gagner sa vie, David Lepoutre était prof dans un collège proche de la cité des 4000 à La Courneuve. Mieux encore, il est allé habiter dans la cité des 4000. Alors, au cas assez extraordinaire, où vous ne connaîtriez pas la cité des 4000, mais quand je dis extraordinaire, ça c'est plutôt pour les auditrices et les auditeurs de la région parisienne. Dans le reste de la France, il n'est pas dit du tout qu'on sache ce que c'est. La cité des 4000, c'est l'un des plus gros, grands ensembles construits juste après la Seconde Guerre mondiale pour faire face au baby boom, à l'explosion de la population, et dont on sait que au moment où on a commencé à faire venir des travailleurs immigrés, on a mis ces travailleurs immigrés dans ces grands ensembles, regroupement familial, changement de la population, et création donc de lieux que l'on peut à bon droit qualifier de ghetto. J'ignore à nouveau, à présent, en 2026, quel est le statut, quelle est la réalité des 4000, combien des bâtiments existent encore. Je sais qu'il y a eu des rénovations, accompagnées de quelques destructions de bâtiments, franchement, plus tenables. En tout cas, une chose est sûre, cette enquête, elle est prodigieuse. David Lepoutre a donc passé des années dans cette cité des 4000, au contact de la population peut-être la moins agréable, c'est-à-dire les adolescents, les préadolescents même, on pourrait quasiment les qualifier plutôt comme ça, puisqu'il s'agit de la population en gros entre 10 et 16 ans. Il était enseignant donc au collège, donc il a enseigné à la fois aux garçons et aux filles, mais son livre porte principalement sur la culture des garçons, ce qui s'explique un peu puisque lui-même est un homme et que c'était pas terriblement facile de vivre là-bas et de ne pas être plongé d'abord et avant tout dans la culture masculine. À nouveau, son investigation et sa présentation de cette culture des garçons de cet âge dans ce lieu bien précis est un très très bon livre d'ethnographie et de sociologie. Son postulat de base est que, contrairement à ce que l'on a beaucoup écrit sans penser réellement à ce qui se passait sur les conséquences de la vie dans les grands ensembles, en particulier dans les années 60, 70, 80, on a cru que ces grands ensembles désocialisaient les gens. C'est totalement faux. Les gens, au contraire, qui habitent dans ces lieux, étant des gens qui, en général, appartiennent à des minorités pas spécialement privilégiées, pas spécialement riches, sont au contraire des gens qui vivent, faudrait pas exagérer et dire en vase clos, mais qui vivent énormément les uns avec les autres. C'est l'une des choses que prouve la longue enquête de Daniel Lepoutre, c'est que y a bien une culture particulière, bien précise, qui s'est développée dans ces grands ensembles, parce que dans ces grands ensembles, en particulier par exemple à la cité des 4000, bien on trouve des milliers de gens qui vivent les uns à côté des autres, très très littéralement, pendant des décennies, et il est donc parfaitement normal que se crée à ce moment-là une culture. Alors, bonne, mauvaise, bariolée ou pas, là n'est pas directement la question. En tout cas, une chose est certaine, c'est que en bon ethnographe, Lepoutre essaie de nous cacher le moins possible de choses, les choses négatives, mais les choses positives aussi. Il ne s'abstient pas de donner de temps en temps des jugements de valeur, c'est son droit. Et il le fait toujours en sachant constamment présenter la différence entre ce qui est l'observation, donc l'ethnographie, et puis après son opinion personnelle de ce qui se passe dans ces lieux. À nouveau, une opinion qui est parfois positive, une opinion qui est parfois négative, ça dépend de ce qu'il raconte. Une autre très grande qualité de son livre, et que, d'abord, quand il est dans le langage théorique, il est nettement moins pénible que d'autres grands sociologues, comme par exemple Bourdieu, qui est un génie, mais dont le langage est quand même franchement très très lourd. Lepoutre réussit à dire des choses de niveau universitaire dans un français relativement accessible. Et puis, surtout, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il a, à nouveau en bon ethnographe, pris énormément de notes et qu'il nous redonne ces notes quasiment verbatim et qu'il donne également un grand nombre de citations également verbatim de ce que lui disent les adolescents et parfois les adolescentes. Tout ceci étant donc éminemment précieux du point de vue ethnographique, sociologique, et puis pour nous de Radio Libertaire, du point de vue politique, pour comprendre ce que font les politiques, ce qu'en font les décisions, quelles sont les conséquences des décisions politiques et économiques de prétendues démocraties menées en réalité au fond par des intérêts capitalistes et en même temps travaillées par une certaine dose de mauvaise conscience et donc de tentative de réhabilitation, d'atténuation des conséquences dramatiques des décisions politico-capitalistes prises plus tôt. Alors, je voudrais, pour rentrer dans le vif, je voudrais commencer par l'un des passages les plus directement stupéfiants, qui à la fois décrit une réalité dont on a entendu parler, mais ça vaut le coup de le lire, de lire ce passage, parce qu'il donne cette réalité du point de vue de quelqu'un qui l'a vécu quotidiennement. Ça s'appelle « La souillure des lieux ». C'est donc un long sous-chapitre, page 48 de ce livre dont je rappelle, c'est donc David Lepoutre, Cœur de banlieue, Code, rites et langages, paru chez Poche Odile Jacob. C'est dans la même perspective qu'il faut tenter de comprendre les pratiques extrêmes de rejet dont font l'objet les espaces collectifs de la cité HLM. L'habitude qui consiste notamment à jeter des ordures et toutes sortes d'objets par les fenêtres, si elle n'est pas majoritaire, est du moins largement banalisée dans le grand ensemble, et en particulier dans l'immeuble où nous résidions, qui détient en la matière une solide réputation. En fin de week-end, après 2 jours sans nettoyage, les abords du bâtiment sont toujours jonchés de détritus et d'immondices de tout genre. Au-delà des nuisances en termes d'odeur, de paysages visuels et d'images qui résultent de cette souillure des espaces publics, il faut compter ici avec le danger encouru par les personnes déambulant au pied des bars. Note du 25 avril 1993. Un soir, alors que je prends le soleil, assis sur un rebord de fenêtre du hall d'entrée de l'immeuble, je vois tomber à quelques mètres de mes pieds un sac poubelle plein qui explose bruyamment sur le sol. Je jette un regard effrayé à Otman, un de mes élèves qui est aussi mon voisin et qui se trouve à quelques distances de là sur le terrain de boules. « Oh, c'est rien !» me rassure-t-il, mi figue mi raisin. « Avant, ils jetaient des téléviseurs. » Les adolescents, en ce domaine, ne se privent pas plus que les autres, bien au contraire. Il faut faire la part, ici, du bonheur enfantin, de jeter par les fenêtres, de balancer par-dessus bord, de faire l'expérience enchantée de la pesanteur et de la chute des corps. Il est difficile de comprendre, pour quelqu'un d'étranger à cet univers urbain, ce genre de conduite. Pourtant, là où une morale petite bourgeoise invoquerait immanquablement le manque d'éducation des classes populaires, il faut admettre que la fréquentation prolongée de cet habitat influence en profondeur les comportements et qu'il est difficile de ne pas céder soi-même au laisser-aller ambiant. Contrairement à ce que nous affirmait un jour le gardien de l'immeuble, ces agissements ne sont pas le seul fait de personnes désespérées, épuisées, fatiguées par la vie, érémistes ou chômeurs en fin de droit, mais aussi de gens qui ont simplement cessé de se sentir concernés par l'hygiène des lieux qui leur sont socialement imposés. Cela ne les empêche nullement, à l'évidence, de tenir par ailleurs leur espace privé dans un état de propreté impeccable. Il en va de même pour les pratiques de souillure des lieux publics, comprises, selon Goffman, dans les cas extrêmes, d'offenses territoriales, ici plus ou moins dirigées contre soi, également observables dans le cadre du grand ensemble. Note du 22 février 1993. En ethnographe convaincu, je me suis rapidement habitué, après quelques semaines passées dans le grand ensemble, à l'odeur d'urine qui règne en permanence, et ce, malgré un nettoyage quotidien, dans le hall d'entrée de mon immeuble, qui ne fait d'ailleurs nullement exception dans la cité. L'ascenseur fait également office d'urinoir nocturne et l'on y trouve parfois, au petit matin, des étrons qui n'ont rien de canin. Je me suis longtemps demandé quel genre de personnes pouvaient être les auteurs de ces souillures. Sans me l'avouer ouvertement, je pensais qu'il ne pouvait s'agir que d'individus passablement marginaux et désocialisés. En sortant du judo, un soir, vers 22h, je propose à Nassim, Farid et Mohamed de venir casser la dalle à la maison. Invitation acceptée sur le champ. Nous nous dirigeons donc en bavardant vers la rue Renoir. Arrivés dans le hall, et alors que nous attendons l'ascenseur, Mohamed, qui a déménagé un an auparavant des 4000 pour un pavillon à Drancy, lance rieur et l'air entendu « Bon ben, on va reprendre les habitudes de la cité, hein ?» Les deux autres opinent du menton. Chacun se dirige alors vers son mur et urine tranquillement tout en continuant à bavarder. Les trois adolescents cités sont socialement parfaitement intégrés, poursuivant leurs études secondaires, pratiquant la compétition sportive à haut niveau, nourrissant rêves et projets d'avenir, etc. Si anomie ou désorganisation sociale il y a, c'est d'abord le fait d'un espace d'habitat non respectable, non respecté et honni. ouvrez les guillemets, le quartier stigmatisé, souligne Bourdieu, dégrade symboliquement ceux qui l'habitent et qui, en retour, le dégrade symboliquement, fermez les guillemets. La question n'est pas ici d'inculper ou de disculper ces pratiques et ces conduites, mais de les situer dans un ordre urbain spécifique, ce que les sociologues de Chicago appelaient un ordre écologique. Il faut sans doute prendre en compte aussi le plaisir, s'exprimant largement par le rire, que procure la transgression ou le spectacle de la transgression de normes sociales aussi évidentes. Note du 21 mai 1993. Un jour, alors que je discute en milieu d'après-midi avec Samir et Loïc, dans ce même hall d'entrée, nous entendons un bruit sonore de jet liquide sur le sol, devant l'ascenseur, qui attire notre regard. Quelqu'un se trouve manifestement en train de se soulager dans la cage d'escalier une dizaine d'étages plus haut. Samir guette un instant ma réaction, puis éclate d'un rire homérique, aussitôt suivi par Loïc. D'abord interloqué, je ne peux à mon tour retenir un rire débridé et libérateur. « Ouah, c'est une cité de ouf, cette cité, hein, Vidda ?» conclut Samir. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu, sans maître et sans publicité. C'est toujours le Proton sans rebiff, et nous discutons ce soir et nous lisons des extraits du livre de David Lepoutre, Cœur de banlieue, code, rites et langage, paru en collection Poche Odile Jacob. L'un des chapitres de ce livre, page 86, s'appelle « Identité et ethnicité ». Et comme on sait, les extrêmes droites font des ethnicités des habitants de cette cité des 4000 où David Lepoutre conduit son enquête, font de ces ethnicités un problème, honte à eux. Cela dit, quand même, il faut se poser la question, quel est effectivement le rapport avec l'ethnicité l'ethnicité d'origine des familles des résidents les plus âgés, et puis le fait que les résidents les plus jeunes, donc en particulier ces adolescents de 10 à 16 ans qui font la cible de l'enquête ethnographique de David Lepoutre, eh bien, quel est leur rapport avec cette ethnicité d'origine, eux qui, en règle générale, sont nés en France et disposent donc de la nationalité française. Et voici donc ce qu'en dit David Lepoutre. La présence de populations d'origine culturelles et sociales différentes dans le grand ensemble se traduit logiquement au sein du groupe des pairs. Alors, quand il dit au groupe des pairs, c'est P-A-I-R-S, et il veut parler en fait des groupes de ces adolescents et préadolescents sur lesquels il enquête. Je reprends. Se traduit logiquement au sein du groupe des pairs par une grande variété personnelle de milieux familiaux. Les expériences de vie domestique sont extrêmement différentes, tant au plan linguistique, alimentaire, vestimentaire qu'au plan moral, religieux, etc. Les différences sont même tout à fait sensibles et notables, contrairement à ce qu'on laisse trop souvent penser, d'une nationalité à l'autre au sein d'un même ensemble géographique et culturel, notamment entre familles marocaines, algériennes et tunisiennes, et même parfois d'une ethnie à l'autre au sein d'une même nationalité. Nonobstant ces différences marquées, l'assimilation culturelle des enfants d'immigrés apparaît en fait largement accomplie, et ce, quelle que soit la nationalité ou la culture d'origine. Nés ou ayant vécu en France, scolarisés et socialisés par des institutions françaises, acculturés par les médias et surtout par la télévision, ils ont acquis, ni plus ni moins que toutes les personnes de leur âge, les façons de penser et les manières de vivre de la culture dominante du pays d'accueil. Pourtant, nombreux sont les adolescents qui affirment avec plus ou moins de prégnance leur appartenance ethnique d'origine. Ouvrez les guillemets. Je me sens française parce que bon, je suis né ici, mais moi, pour moi, je suis une pure arabe. Moi, je me sentirais plus arabe que française, hein. Je suis une arabe. Rire. Par rapport à mes origines, par rapport à mes grands-parents, moi, je serais toujours arabe. Fermez les guillemets. C'est Nassera qui parlait. Cette affirmation posée et réfléchie, recueillie dans le cadre d'un entretien, est d'ailleurs moins représentative que celle, plus fanfaronne et provocatrice, exprimée au quotidien dans le cadre scolaire, plus souvent par des garçons, à l'intention des représentants de la culture française par excellence, que sont les enseignants. L'auto-désignation ethnique peut aussi s'affirmer à l'écrit, par exemple, dans les fiches d'inscription annuelles du collège, dans lesquels bon nombre d'élèves d'origine immigrée se déclarent de nationalité étrangère alors qu'ils sont français de droit. La conscience identitaire marquée par cette auto-désignation ne s'appuie sur aucune pratique ni aucun trait culturel traditionnel de type communautaire. Au contraire, les jeunes issus de l'immigration se trouvent souvent en rupture plus ou moins complète avec les modèles culturels de leurs parents, dont ils moquent volontiers, par exemple en les désignant ironiquement comme typiques, piquetis, en verlan, les attitudes et les conduites importées du pays d'origine. Note du 20 octobre 1992. Zahir, un adolescent fraîchement immigré, qui porte sur lui et dans ses manières d'être les signes évidents de son arrivée récente en France, est ainsi connu dans la cité sous le nom de Zahir du Bled. Rien ne témoigne mieux de cette coupure avec la culture d'origine que l'ignorance de la langue des parents. Les adolescents la comprennent plus ou moins et en font à l'occasion un usage symbolique, mais ne la pratiquent jamais dans les échanges verbaux du quotidien. L'identité se fonde en réalité sur une ethnicité inventée ou reconstruite, c'est-à-dire bricolée à partir d'éléments empruntés à la modernité du pays d'accueil et au passé mythique et fantasmé des origines. Certains jeunes noirs entretiennent par exemple, se faisant ici l'écho d'un discours familial récurrent, la mémoire ardente du passé héroïque du peuple esclave, dont ils se font à l'occasion les chantres révoltés. Ouvrez les guillemets. Si les Renois ne s'étaient pas battus contre les Blancs, moi et Jalel, on ne serait pas là en jean et en basket Reebok, hein. On serait encore dans les champs de coton à l'heure qu'il est, hein, Jalel. Fermez les guillemets, c'était de Patrice. Cette ethnicité, qui est à la base d'une sous-culture de l'exclusion liée à la prise de conscience du stigmate imposé de l'extérieur, cette ethnicité concerne principalement les adolescents noirs et maghrébins, qui seuls nourrissent un véritable discours d'appartenance ethnique et construisent leur identité personnelle autour de ce principe. Celle-ci est d'ailleurs d'autant plus affirmée que les individus se situent en marge des normes scolaires et dominantes et adhèrent aux valeurs de la culture des rues. On peut dire qu'elle fonctionne en ce sens comme un marqueur de classe d'âge. Avant l'adolescence, la définition de soi et les relations interpersonnelles des enfants semblent reposer sur d'autres principes. Après l'entrée dans l'âge adulte, les stratégies identitaires se transforment et l'affirmation ethnique a tendance à disparaître au profit d'une volonté consciente ou inconsciente d'intégration sociale et nationale. Chaque groupe ethnique reconstitue à partir de l'invention ou de la recréation d'un passé commun et d'une identité commune réunit des personnes d'origine culturelle souvent très différentes, que ce soit les Arabes d'origine algérienne, kabyles ou arabes, marocaines, tunisiennes, ou les Noirs d'origine malienne, zaïroise, sénégalaise, comorienne, guadeloupéenne, martiniquaise. Peu importe, en somme, les écarts et les différences, puisque l'essentiel de la sous-culture ethnique est recomposé. L'ethnicité s'exprime d'abord par des conduites ostentatoires, surtout au plan religieux. La soumission aux interdits alimentaires et aux jeûnes annuels du Ramadan, qui ne demandent aucun apprentissage particulier, et permet d'afficher de manière simple son appartenance ethnique, est très courante chez les adolescents de familles musulmanes. Cet, ouvrez les guillemets, « islam imaginaire », fermez les guillemets, a pour nombre d'adolescents une valeur bien plus symbolique et démonstrative que proprement spirituelle. Dans certains cas, exceptionnels mais significatifs, le pouvoir d'affirmation et de provocation de l'islam conduit même des jeunes d'origine non musulmane à se convertir officiellement à cette religion. L'ethnicité se traduit ensuite par l'identification, dans les limites de la conscience adolescente, aux différents nationalismes. Ainsi, même s'ils en ignorent l'historique précis, les jeunes noirs sont sensibles aux destinées des mouvements noirs en Afrique du Sud et aux États-Unis. Beaucoup ont vu les films de Spike Lee, se coiffent comme Malcolm X et portent des casquettes et des t-shirts à son effigie. De leur côté, les jeunes maghrébins sont plus ou moins réceptifs aux valeurs du nationalisme arabe, intérêt pour l'histoire de la guerre d'Algérie, soutien à Saddam Hussein pendant la guerre du Golfe, fascination exercée en son temps par l'intifada palestinienne, voire aujourd'hui par les attentats du GIA, le groupe islamique armé. Note du 30 juin 1994. Les écrits scolaires révèlent parfois de façon frappante les états de la conscience adolescente. Ainsi, aux épreuves d'histoire-géographie du brevet des collèges de 1994, où il était demandé aux élèves de placer 8 événements du XXe siècle sur un axe chronologique, les dates de la guerre d'Algérie, qui n'étaient pourtant pas demandées, figuraient sur de nombreuses copies, parfois même à l'exclusion de toute autre date. au quotidien, l'ethnicité se donne encore à voir dans l'adoption personnalisée des différents looks à composantes ethniques de la culture des rues, étroitement dépendant des mouvements composites et à évolution rapide de la mode urbaine contemporaine, mais qui puisent aussi au besoin leur source dans la tradition culturelle du pays d'origine, comme en attestent par exemple les coiffures sophistiquées des adolescentes noires, largement inspirées par la mode capillaire africaine traditionnelle et contemporaine. Note du 19 mai 1992. La découverte ethnologique de l'altérité culturelle passe parfois par des surprises aussi banales qu'insolites. J'ai ainsi pris véritablement conscience de l'importance accordée par les adolescentes noires à la tenue et à l'entretien de leur coiffure, un soir où je rendais visite aux parents d'une élève, Leslie. Le but premier de ma visite était de lui demander des excuses pour l'insulte qu'elle m'avait adressée le matin même en sortant de la classe, façon habituelle et jusqu'ici efficace que j'ai adoptée, non sans intérêt ethnographique, pour régler ce genre de problème. Après les explications et les réprimandes familiales de circonstances, Leslie finit par s'excuser en bonne et due forme. L'ambiance se détend, la conversation va bon train. Sa mère lui lance pour conclure « Leslie, tu seras privée de dessert et de sortie », éclat de rire. Une de ses grandes sœurs s'empresse alors de rajouter « et privée de défrisage », et là, éclat de rire généralisé. Au collège, les rares adolescentes noires qui laissent leurs cheveux crépus sans tressage ou défrisage se font traiter par leur père de cheveux de carton, gros casque, etc. Ces looks distingués, au sens que Bourdieu donne à la distinction, s'opposent entre eux, comme ils s'opposent à la mode jeune des classes moyennes, qu'ils influencent d'ailleurs, paradoxalement. Il est difficile de donner un descriptif fiable de ces tenues, pour la raison qu'elles diffèrent selon les âges et qu'elles changent rapidement avec le temps. L'extrait suivant d'entretien avec Ahmed, Kamel et Victor montre du moins le caractère à la fois dynamique et distinctif de la construction des apparences. Ahmed est vêtu d'un pantalon de velours, d'un blouson en coton beige et porte des baskets noires en daim. Les deux autres sont en jean, polo Lacoste et tennis Adidas et Reebok. Aucun d'entre eux ne porte de casquette ni d'autres attributs ostentatoires. Ouvrez les guillemets. Ouais, nous, on s'habille cité. C'est quoi le look cité? Ouais, c'est comme nous, avec des baskets, c'est tout. Et le look zoulou, c'est quoi? Ah, ces grosses pompes de la lune, là, des laguerres, Reebok, Nike, Adidas, ça, c'est pas zoulou. Mais là, eux, ils mettent des grosses pompes, ils serrent pas, au contraire, ils les écartent. Et pantalon large. Pantalon large en quoi? Ah, pantalon noir, en jean ou en survêt, en tout. Oh, quelquefois, il y en a, ils ont des lunettes, mais alors comme des carreaux. Fermez les guillemets. Et là, arrive une note, enfin plus exactement, un encadré. Donc on est page 93 et l'encadré est page 92, que je ne résiste pas au plaisir de vous lire. Le caractère pluriethnique du recrutement scolaire n'est pas sans poser certains problèmes très concrets et parfois insoupçonnés à l'administration et aux enseignants des établissements. Adaptation des menus de demi-pension aux interdits alimentaires, tolérance obligée des absences d'élèves lors des fêtes religieuses, composition de classes ethniquement équilibrées, etc. Note du 27 mai 1992. Il y a quelques années, le principal adjoint du collège avait négligé la répartition ethnique au sein des classes, si bien qu'à la rentrée, une des quatrièmes se trouva, par l'effet du hasard, exclusivement composée d'adolescents d'origine maghrébine. Il ne fallut pas longtemps pour que cette classe fût connue et identifiée par l'ensemble des élèves de l'établissement, y compris par les élèves concernés, comme la classe des Arabes. Dénomination qu'elle garda, au grand dam de l'administration et des professeurs, jusqu'à la fin de l'année scolaire. Dans un contexte ethnique sensiblement différent, Vieillard Baron observe des situations du même type à Sarcelles où, ouvrez les guillemets, certaines classes des écoles maternelles du bas et du lycée professionnel apparaissent au premier abord comme des classes de noirs. Fermez les guillemets. On peut d'ailleurs se demander s'il reste possible aux enseignants des établissements qui recrutent dans certains grands ensembles périphériques de garder une approche délibérément non ethnique de classes aussi majoritairement composées d'élèves d'origine non métropolitaine. L'occultation de la question ethnique des quartiers sensibles empêche ici toute forme de réflexion sur ces problèmes, fin de l'encadrer. Alors je voudrais juste ajouter là une observation personnelle. Il se trouve que depuis un certain temps, je vais donner des conférences dans des collèges. Effectivement, ce sont des collèges à Marseille et des collèges dans la banlieue parisienne. Donc des établissements d'enseignement public. Et je me suis aperçu que quelque chose dont on parle beaucoup et dont j'ignorais le degré de réalité est effectivement très réel. Dans ces établissements publics, tout à fait banals, il est absolument évident que, je ne pourrais pas donner un chiffre précis, mais 95% des élèves sont des élèves de familles d'origine non française ou d'origine d'ex-colonie française et peut-être éventuellement martiniquais, guadeloupéens, réunionnais, etc. Et c'est évident. Vous savez qu'on est en train de dire qu'il y a une fuite des... Alors, appelez-les les franco-français, les français de souche, les blancs, les toubabs, appelez-les comme vous voulez, qui mettent leurs élèves dans des écoles privées que ne peuvent pas se permettre les familles d'immigrés. À la fois, alors certains par pur et brutal racisme, et puis d'autres par, je pense, inquiétude de vouloir que leurs enfants restent dans un univers culturel franco-français et que leur langage en particulier soit, au point de vue ne serait-ce que de l'accent, un langage de français standard. En tout cas, personnellement, donc cette année, les 5 ou 6 interventions que j'ai faites dans 5 ou 6 collèges différents ont été tout à fait stupéfiantes pour moi. C'était évident que, à nouveau, les franco-français, français de souche, toubab, etc., fuient ces établissements. On voit quelques élèves, mais à nouveau, la proportion serait de 5% si on voulait et si on pouvait la calculer, que ça ne m'étonnerait pas.
Yeah.
Vous avez reconnu Steer It Up de Bob Marley. Nous sommes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. C'est toujours le Protons Rebif et nous continuons à parler de l'excellentissime livre de David Lepoutre, Cœur de banlieue, Codes, rites et langages, paru chez Poche Odile Jacob. Il y a fort longtemps, puisque c'est un livre de la fin des années 90. Dans le chapitre appelé « Les relations d'interconnaissance », à la page 120, il y a donc le début de ce texte que je commence à lire. À l'intérieur du grand ensemble, les principaux facteurs qui contribuent au développement des relations adolescentes de voisinage sont l'enracinement spatial et territorial, l'absence de véritable séparation entre l'espace relationnel résidentiel et l'espace relationnel entre guillemets professionnel, c'est-à-dire scolaire, et la relative homogénéité sociale de la population des 4000. Cette sociabilité est également rendue possible par la fréquentation adolescente assidue des espaces publics de la cité. Nul sans doute ne parle mieux de cette sociabilité de voisinage que ceux qui l'ont quittée par le fait d'un déménagement familial. Ouvrez les guillemets. Or, quand je regarde les 4000, franchement, ça me fait un peu mal au cœur d'être parti. Tu regrettes ? Ah ouais, la vie en pavillon, ça n'a rien à voir avec la vie en cité. À Duny, tu vois, on est dans une rue. Les gens, ils se parlent même pas, c'est chacun pour soi. C'est que des bouffons ou alors des vieux. Au 4000, c'était parfois dur, mais il y avait les copains en bas. Tu descendais à n'importe quelle heure, t'étais sûr de les trouver. Fermez les guillemets, c'était Mohamed qui parlait. Il faut bien entendu faire la part ici de la rupture affective occasionnée par tout changement résidentiel au cours de l'enfance ou de l'adolescence, ouvrez les guillemets. Mais moi, au début, j'étais pas content de partir des 4000. Il y avait toutes mes copines là-bas. Alors, j'étais pas content, j'en avais marre, je grognais. Bon, de partir, on est content, mais quand on habite là, puis il n'y a plus personne et tout, ça devenait relou. Et maintenant, tu es content ou tu voudrais retourner au 4000 ? Non, moi, mon père, il a dit, vous allez vous habituer et tout ça, et j'étais pas content. Je fais, ouais, il y avait mes copines là-bas et tout. C'était Abla qui parlait. L'exubérance et l'intensité apparente des relations adolescentes de voisinage contribue à donner au quartier un caractère animé et vivant, qui contraste singulièrement avec les descriptions misérabilistes sur fond d'ennui et de jeunesse désœuvrée auxquelles nous a habitués la rhétorique journalistique depuis une quinzaine d'années. On peut même supposer que le besoin d'être ensemble et de partager les expériences de l'existence quotidienne qui semble si permanent et si insatiable à cet âge de la vie, trouve dans ce contexte résidentiel matière à satisfaction plus que partout ailleurs. En ce sens, la solitude par trop visible de l'ethnologue sur le terrain ne manque pas d'apparaître aux membres de cet univers social comme une sorte d'ineptie existentielle. Samir, me rendant visite dans mon studio peu après mon installation, me posait une question dont il connaissait bien évidemment la réponse, mais dont il voulait obtenir explication. « Eh, t'habites seul, Davidda ?»« Eh, comme tu vois. »« Ah, c'est vraiment affreux de vivre seul comme ça. En plus, t'as même pas de télé. » Même type de réaction spontanée de Salem que je croise un soir dans la rue en rentrant du centre commercial. « Tu vas manger ?»« Ouais. »« Tout seul ?»« Ouais. »« Tu dois t'ennuyer. » Et page 136, nous lisons cet encadré intitulé « La passion du football » et qui est une citation qui a été faite par Gérard Mauger et Claude Fosse-Poliac dans un livre appelé « Les Loubards », enfin un livre non, c'est un article intitulé « Les Loubards dans les actes de la recherche en sciences sociales ». Donc je lis l'encadré. « Tu vois, quand j'étais gamin, ma seule distraction, le seul jeu, c'était le football. » Pour la simple raison que tu peux y jouer absolument n'importe où. T'as pas besoin de piste, rien. Tu peux jouer dans l'herbe, dans la rue, sur le trottoir, dans une cour, n'importe où. En plus, t'as un jouet pour 15 gosses, tu vois. Alors qu'un vélo, il en faut un pour chacun. Un ballon, t'en as besoin, t'en as un pour 10. C'est pour ça que les gamins, ils jouent au foot, c'est pas plus compliqué. En plus, ça leur permet d'avoir une communication que t'as pas quand t'as un vélo ou des patins à roulettes. Prends n'importe quel loubard, donne-lui un ballon, tu vas voir, il sait s'en servir. L'autre fois, c'était Place des Vosges, il y a deux rockies qui arrivent, bon, vraiment des rockies, hein, habillés tout en noir, foulard noir, les Santiago hyper pointus avec le bout de ferraille au bout, Ginny Vincent. Enfin, vraiment, les loups rockies, des rivets dans le dos, des aigles avec des yeux brillants, ils sont arrivés. Ils en pouvaient plus, les mecs. Ils roulaient leur caisse, ils étaient très grands, très secs, vraiment le type même du loupard, tu vois. Mais il y avait des mecs qui jouaient au ballon, ils les connaissaient. Eh ben, les mecs, ils ont quitté leur blouson, leur petit foulard, et ils ont tapé dans le ballon pendant une heure. Moi, je sais que je peux pas résister à un ballon. Quand je veux un ballon, faut que je joue avec. Fermez les guillemets. Le livre de David de Lepoutre est vraiment très complet. J'en veux pour exemple ce chapitre qui démarre page 140, et qui s'intitule « Membre », alors membre évidemment du groupe des pairs, des pairs PAIRS, comme je l'ai déjà indiqué, et « Bouffon ». Au sein des enfants et des adolescents du grand ensemble, il en existe un certain nombre qui grandissent et passent leur jeunesse à l'écart de la culture des rues, soit par le fait d'une éducation familiale plus bourgeoise et contraignante, soit par choix personnel et par adhésion précoce aux valeurs scolaires, soit encore par incapacité mentale ou physique à participer aux activités de la rue, soit enfin, du fait des origines, par manque d'affinité culturelle avec l'univers des groupes de pairs. Ces adolescents, que le langage adolescent désigne comme « bouffons », restent à l'extérieur du groupe central, ne participent pas à sa culture et ignorent ou connaissent mal ses codes relationnel. Ils ne sortent pas, ne traînent pas, ne jouent pas au foot, ne se battent pas, ne volent pas, etc. Une partie de ces adolescents obtiennent à l'école, du fait de leur travail ou de leur intelligence, des résultats nettement supérieurs à la moyenne des classes et sont ce qu'on appelle les bons élèves. Comparés aux autres, ils ont de plus grandes chances de réussite future dans leurs études et ils sont promis à un meilleur avenir professionnel et social. Pourtant, dans le contexte ici décrit, ce sont eux les dominés du moment. Le terme « bouffon » indique d'ailleurs bien la caractérisation négative et le mépris systématique dont ils font l'objet. Souvent incapables de se défendre aussi bien verbalement que physiquement, non intégrés dans les réseaux relationnels de solidarité agonistique, ils subissent, sous différentes formes et parfois de façon dramatique, la violence qui s'exerce entre adolescents, notamment dans le cadre de l'école. C'est la présence dans les rues du grand ensemble qui est le critère principal de distinction entre membres et bouffons. Le jugement adolescent s'exprime ici de manière très clair. Note du 16 avril 1992. Je me rends chez les Diallo pour régler un problème d'orientation d'un de leurs fils, Fabien. Arrivé sur la place Villon où il réside et n'ayant pas pris soin de noter le numéro, je demande à une bande d'adolescents qui traînent dans les aires de jeu s'ils connaissent l'adresse exacte des Diallo en question. Diallo, qui c'est ça? Je connais pas, me répond l'un d'entre eux. Son voisin rectifie aussitôt. Eh mais si, c'est les petits bouffons là qui sortent jamais, tu sais bien. Ah ouais, ils habitent là-bas, l'escalier en face. Fermez les guillemets. Les parents Diallo, Guadeloupéens, le père est aide-soignant, la mère sans profession, élèvent leurs 8 enfants, comme je l'apprendrai par la suite, en réduisant au strict minimum leur contact avec les autres adolescents du grand ensemble. Toutes leurs activités extérieures ont lieu en dehors des 4000. 5 d'entre eux pratiquent la musique classique au conservatoire de la Courneuve. Ils ne sortent dans les rues du quartier que pour les nécessités de déplacement. Ils ont même, pour certains, des itinéraires stratégiques pour revenir de l'école en croisant le moins de monde possible. Les différences d'éducation sont en ce domaine très marquées d'une famille à l'autre. Certains parents laissent à leurs enfants une grande liberté, tandis que d'autres imposent des contraintes strictes. Ces différences recoupent les différences sociales et même parfois ethniques. Les différences d'éducation sont également marquées au sein d'une même famille dans la façon d'éduquer les filles et les garçons, comme nous le verrons ultérieurement. Dans la conscience adolescente, les bouffons sont associés aux quartiers pavillonnaires ou aux immeubles de standing. La résidence du parc, voisine des 4000, dans laquelle résident les élèves de catégories sociales plus élevées, est considérée de la vie générale comme une cité de bouffons. Ainsi qu'en témoigne ce dialogue croisé entre Marc, fils d'architecte qui y réside, et Nassim et Farid, habitants des 4000. Ouvrez les guillemets. Oh, tu sais, moi je traîne pas souvent là-bas, moi. T'es toujours ici aux 4000? Ouais, non, mais j'aime pas rester là-bas. C'est une cité de bouffons, faut le dire, hein. Y a pas d'ambiance? Ah non, y a rien, c'est que des cons là-bas. C'est des petits riches. C'est une cité qui a rien à voir. Ils sont pas à la Courneuve. Fermez les guillemets. Rien ne définit mieux ces espaces que l'opposition qui les sépare des grands ensembles défavorisés. Ouvrez les guillemets. Une cité de bouffons. C'est une cité où il n'y a pas de casse, pas de voleurs, pas de drogue. C'est tout le contraire des cités dégradées. C'est Dombi. Verlan pour bidon. Fermez les guillemets. De manière analogue, au collège, les classes portant le numéro 1, de la 6e à la 3e, qui regroupent principalement les bons élèves, sont définies comme des classes de bouffons par les adolescents intégrés à la culture des rues. Au pôle opposé du bouffon, sur l'axe des positions par rapport à la culture des rues, se trouve le personnage emblématique de la caïra, racaille. Ce terme désigne dans la rhétorique adolescente les délinquants affirmés, les voyous notoires ou, d'une manière plus générale, tous les membres intégrés de la culture des rues. Note du 19 avril 1992. Dans le quart qui nous ramène d'Espagne, je demande à Brahim la signification de caïra. Il réfléchit quelques secondes, surpris par la question, puis bombe le torse et me répond à voix forte afin que tout le monde l'entende bien. Une caïra, c'est un quemé, mec, comme moi, se frappant la poitrine avec le pain, qui habite la cité, qui traîne en bas des bâtiments avec ses potes. Il n'est pas très courant, en réalité, que les adolescents s'autodésignent comme caïra. Ce terme, malgré sa réappropriation positive, conserve une connotation fortement péjorative. Dans les discours, la caïra, c'est plus souvent l'autre, le plus délinquant que soi, le plus bagarreur ou simplement le plus grand que soi, qui fascine, et éventuellement que l'on craint, mais aussi que l'on désapprouve par certains côtés. Othman, à qui je demandais un jour s'il se considérait comme une caïra, se dénia ainsi vigoureusement « Ah non, moi je suis normal, moi !» Durant mes premiers mois aux 4000, on a vu que Samir me demandait rituellement, chaque fois qu'on se rencontrait, « Hé, t'es une caïra, vite da !» Question qui était pour lui une manière de chercher à savoir à la fois pour qui je me prenais et comment je me définissais par rapport à l'ambiguïté de mon statut d'enseignant résident au grand ensemble des 4000. L'opposition entre Caïra et Buffon rappelle, dans des contextes culturels différents, celle qui existait entre rockers et mods dans l'Angleterre des années 60, ou entre corner boys et college boys décrits par White aux États-Unis, ou encore entre les hip, dans le coup, et les lames, paumés, des ghettos noirs étudiés par la Bove. Et à cette différence près, que l'opposition entre membres et bouffons est ici structurelle et ne se traduit par aucun conflit ouvert et permanent entre adolescents des deux parties. Les membres des deux groupes ne font d'ailleurs preuve d'aucun sectarisme les uns envers les autres. Les relations interpersonnelles outrepassent facilement ces clivages. Qui plus est, les adolescents de la culture des rues sont inévitablement influencés par les codes et les valeurs de la culture dominante, et ceux qu'on appelle les bouffons ne sont, eux, ni insensibles, ni systématiquement hostiles à l'univers d'activité des caïras ou des voyous qu'ils fréquentent au quotidien. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu, sans maître et sans publicité. C'était le Protons Rebif. Nous avons lu des extraits, nous avons un peu discuté, donc des extraits de cet excellent livre de David Lepoutre, Cœur de banlieue, code, rites et langage, paru chez Odile Jacob. Un livre dont, vous l'avez deviné, je recommande très vivement la lecture. Je vous retrouve tous les troisièmes lundis du mois à 21h pour le Protons Rebif et tous les premiers lundis du mois pour les Muses s'amusent et je vous souhaite une excellente soirée.
Ah le beau pays ma mère, ah le bon vieux temps jadis. Ma plume, mon arme, ma défense, ma raison, mon ivresse, mon errance, ma contradiction, ma détresse, ma violence. Ma conviction, mon allégresse, ma résonance, mon intuition qui blesse, mon évidence, mon désir, mon mutation, ma transparence. Mon impulsion, mon insolence, mon attention, ma vigilance, mon horizon, mon existence, mon affront, ma résistance, ma rébellion, ma tristesse, ma différence. Ma conviction, mon allégresse, ma résonance, mon intuition qui blesse, mon évidence, ma plume, mon arme, ma défense. Ma plume, mon arme, ma défense, ma raison, mon ivresse, mon errance, mon hésitation, ma transparence. Mon impulsion, mon insolence, mon attention, ma vigilance, mon horizon, mon existence, mon affront, ma résistance, ma rébellion, ma tristesse, ma différence.
La vie de m'avoir permis d'espérer. Je remercie le monde de m'être apparu si grand. Je remercie les hommes pour ce qu'ils m'ont enseigné. Je remercie les femmes qui m'ont rendu moins méchant. Peu importe les mots que l'on enfante chaque jour, ils sont vrais aujourd'hui et seront faux le lendemain. Les trésors de l'esprit ne servent pas à faire l'amour, ils détruisent si bien la mauvaise herbe des jardins. Les fleurs qui poussent sous nos pas sont des fins de série. J'ai beau chanter avec mon cœur, ne passe que ma voix. J'ai beau gratter sur ma guitare, que l'espoir est permis. L'autoroute de l'avenir, je ne la prendrai pas. Je remercie la vie de m'avoir permis d'espérer. Je remercie le monde de m'être apparu si grand. Je remercie les hommes pour ce qu'ils m'ont enseigné. Je remercie les femmes qui m'ont rendu moins méchant. Adieu jolie petite fille, adieu joli garçon. Je vous vois et je tremble, que serez-vous donc demain? Il me semble bien que je peux répondre à la question. Et c'est la pire peine qui s'installe et qui m'étreint. C'est ignoble et c'est lâche de noircir tant de tableaux. Le présent est de bois, mais demain ce sera de l'argent. Et moi juste le temps de cet assemblage de mots. Je vais mentir aussi et mon refrain sera du vent. Je remercie la vie de m'avoir permis d'espérer. Je remercie le monde de m'être apparu si grand. Je remercie les hommes pour ce qu'ils m'ont enseigné. Je remercie les femmes qui m'ont rendu moins méchant. Et mon refrain sera du vent. Et mon refrain sera du vent.
Je me fasse une raison. On sera jamais les Beatles. On n'aura jamais leur pognon. Dans mes poches, j'ai même pas dit que c'est. Et pourtant, je me donne à fond. Je me donne du mal du matin au soir et du soir au matin. Mais faut que je me fasse une raison. La musique, ça me fait triper. À base d'amour et d'eau fraîche, mais c'est la misère. J'ai pas de thune, pas de fric, pas de blé. Je mange des pâtes et je bois des cafés au lait. Je m'imagine riche et célèbre, quittant mon HLM, quittant ma voisine alcoolo, revendant mon Audi anti-écolo. Mais faudrait que j'aille habiter chez les rubans, moi qui suis allergique au consacrin. On sera jamais les Beatles. On n'aura jamais le pognon. Dans mes poches, j'ai même pas dit que s'il faut bien que je me fasse une raison. On sera jamais les Beatles. On n'aura jamais le pognon. Dans mes poches, j'ai même pas dit que c'est. Et pourtant, je me donne à fond. Je me donne du mal parce que j'aime ça. Je me donne du mal parce que je sais faire que ça. Je suis malade, complètement malade. J'endors plus la nuit. J'avais un boulot, au début ils pensaient que j'étais un fou de travail, tellement ils me voyaient rester des heures entières derrière mon ordi. Ils m'ont viré quand un jour ils ont appris qu'en fait au bureau j'englandais pas une, à part écrire mes chansons, la tête dans la lune. Pour m'excuser je leur ai poussé la chansonnette. Ils m'ont fait merci, au revoir, pas même une petite piécette. On sera jamais les Beatles. Jamais le pognon. Dans mes poches, j'ai même pas dit que s'il faut bien que je me fasse une raison. On sera jamais les Beatles. On n'aura jamais le pognon. Dans mes poches, j'ai même pas dit que c'est. Et pourtant, je me donne à fond.
Chaque jour qui passe, je passe les trois quarts de mon temps à chanter du MTM, du Bob ou du Yves Montand. Je pense qu'à ça 24 heures sur 24. L'écriture et ma musique, ouais, je suis un psychopathe. Ma femme a dit fais-toi soigner, va voir un psy. Ou alors t'étonne pas mec, si un jour je te quitte, tu m'écoutes même plus quand je te parle. T'es ailleurs, quelque part dans l'espace, la tête dans les étoiles. Je lui ai répondu, belle idée de chanson. Elle a fait ses bagages, ça m'a filé l'inspiration. Je suis un mélomane qui aime les mélodrames. C'est tellement bon une chanson qui se termine mal. On sera jamais les Beatles, on n'aura jamais le pognon. Dans mes poches, j'ai même pas dit que s'il faut bien que je me fasse une raison. On sera jamais les Beatles, on n'aura jamais le pognon. Dans mes poches, j'ai même pas dit que c'est pourtant. Et pourtant, on sera jamais. On sera jamais.
Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi, je file tout doux sous son empire. Bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout et même pire. Une jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle. Une jolie pervenche un jour en mourut à coups d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Tous les somnambules, tous les mages m'ont dit sans malice. Quand ses bras en croix, je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à tout prendre. qu'on se pend ici, qu'on se pend ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.
La méduse de la plage de Saint-Malo fait du vélo sur la plage à Saint-Malo. Les coquillages et crustacés en ont assez de se faire écraser sous les rayons d'un vélo majuscule et d'une méduse qui vous tentacule. Ouïou, c'est là qu'il faut pas 100 000 mélos, les pinceaux dans la chaîne de vélo. Je continue. La méduse de la plage de Saint-Malo fait du vélo sur la plage à Saint-Malo. Elle en pince pour un crabe, elle en pince pour un crabe, fabricant de chambres de sable, mais qui recule dès qu'il la voit. Alors la méduse de la plage fait du mélo, qui a cheval en voiture et en vélo. Les coquillages et crustacés ont assez de se faire écraser sous les rayons d'un vélo majuscule et d'une méduse qui vous tentacule. Oui, 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 c'est là qu'il faudra 100 000 mélos. Les vassaux dans la chaîne de... bicyclette. Je continue. La méduse de la plage de Saint-Malo fait du vélo sur la plage à Saint-Malo. C'est alors qu'un vieux dromadaire qui passait par là en lisant son bréviaire, aïe, 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 et l'on sait trop ce qui se passa, mais le dromadaire devint popo. D'une méduse un peu volage à Saint-Malo qui fait du vélo sur la plage à Saint-Malo. Les coquillages et les crustacés ont assez de se faire écraser sous les rayons d'un vélo majuscule et d'une méduse qui vous tentacule. Oui, oui, trop tard, c'est déjà fait.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Ah, mon amour. Ah. Ah. Et qui me coince dans les souris noires en sautant sa lame de rasoir. C'est juste une fille un peu fridée qui s'amuse avec ma santé et qui me dégoupille les gonades juste au moment où je prends mon fade. Tu n'es pas la première fille qui me tape, tape-moi encore. Ah, tu n'es pas la première fille qui me tape, tape-moi encore. Plus fort. Ah, ah, ah. C'est juste une fille un peu rocky qui grimpe à moto sur mon lit et qui sort sa chaîne de vélo en me disant je t'aime saignant salaud. Mes futales en me disant fais gaffe baba cool, je mets mes crampons garde tes bidoules. Ah, tu n'es pas la première fille qui me tape, tape moi encore. Ah,
rêve d'être une penseur frau et qui me déguise en infomane pour que je me tape son Doberman. C'est juste une fille un peu hâlée qui se coupe les nibards pour frimer. Mais c'est si bon de jouer son jeu quand elle décroche le nerf de bœuf. Tu n'es pas la première fille qui me tape, tape-moi encore. Ah, tu n'es pas la première fille qui me tape, tape-moi encore. Plus fort, ah, ah, ah. C'est juste une fille comme toi et moi. Enfin, je crois plutôt comme toi.
Souviens-toi des souliers usés, des vendredis, et le poisson qui se rendait sur la table à midi, et qu'il marchait tout seul, qu'il n'était pas poli, frais ou pas le maquereau, faut que ça fasse des chichis. Souviens-toi des jeudis et de la mer Larousse, et le frangin à rabat comme un flic à tes trousses, et ta plume qui grattait sous l'œil de ce bandit qu'une certaine envie mettait à merci. L'enfance, c'est un chagrin cueilli de frais, c'est un jardin, c'est un bouquet, c'est des épines aussi. L'enfance, c'est le paradis dans du cambouis, c'est des caresses au fond de la nuit, c'est une leçon d'ennui. L'enfance, c'est des copains qu'on a perdus, c'est des petites mômes qu'on n'a pas eues, c'est une chanson toute nue. L'enfance, l'enfance, c'est un jouet qui s'est arrêté, c'est l'innocence rapiécée, c'est toujours ça de passé. L'enfance, souviens-toi des frangines qu'avait même pas 10 piges. Dans la nuit retrouvée, on jouait à se faire la pige, même qu'elles étaient girondes, avec leurs yeux barrés juste en dessous, comme une ombre, comme le phare du péché. Souviens-toi des silences au fond des corridors, et ce halètement divin, je l'entends encore. Et puis la nuit fidèle à se rappeler ces trucs-là, et cette foutue mémoire qui me tient par le bras. L'enfance, c'est un pays plein de chansons, c'est le remords de la raison, c'est la folie aussi. L'enfance, c'est l'enfer sous le tableau noir, c'est Tahiti dans un dortoir, c'est l'âme de la nuit. L'enfance, c'est un oiseau qu'on a manqué, c'est un chat qu'on a chahuté, et c'est la cruauté. L'enfance, l'enfance.
passe, ces jours après jours quitter l'ombre, et vers la proie et vers le nombre, c'est apprendre à frapper l'enfance. Souviens-toi des bonbons et puis du Père Noël, de la toupie qui tournait, 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 qui tournait.
Auditrice, auditeur du 89.4 de la radio libertaire. La radio libertaire. 22h31, et c'est l'heure où débute cette nouvelle émission d'Indésine, qui tous les 15 jours vous invite à retrouver toute son équipe, avec alors ce soir Estelle, Anouri, Nanou, Xavier, Joël, Titoun, Vincent, j'en oublie, Jean-Michel, j'ai oublié quelqu'un, Joël ? Xavier, je l'ai dit. Bah, Xavier, une deuxième fois, voilà. Réunis autour de Vincent, autour de Sébastien, et ça commence bien ce soir, et de votre serviteur Artaud pour vous faire découvrir l'actualité de la culture underground et de la contre-culture overground. Bonsoir Seb.
Bonsoir mon cher Anton. On est super heureux de vous retrouver, comme d'habitude, sur l'antenne du 89.4, la radio qui vous permet d'écouter la Fédération Anarchiste en direct. Et oui, la radio avec Indésine. Et ce soir, on a des super invités sur Radio Libertaire. Sur Radio Libertaire, vous savez que vous êtes dans une sorte de bulle. Une bulle incroyable, puisque à l'intérieur, il y a des artistes, des poètes. Vous avez des peintres, vous avez des organisateurs de concerts, vous avez des superbes groupes. Et là, justement, en parlant de superbe groupe, juste à ma gauche, quelqu'un qui me fait un beau sourire, c'est Jen Wolfe, qui appartient à Bliss My Heart. Bonsoir Jen.
Hello, bonsoir, merci de nous accueillir.
Bah écoute, c'est un plaisir.
C'est cool.
Comment vas-tu ?
Ça va, merci.
Bon voilà, on est très très fiers de te recevoir. Voilà, on en parle depuis quelques temps, la Bliss My Heart, pour deux choses. Pour un single fantastique, qui sort avec un invité qu'on aura en... tout à l'heure au téléphone, un invité mystère qui a joué avec un des plus grands groupes du monde, et pour une tournée avec les Depeche Mode Experience, tournée notamment dans les Zéniths, dans des grosses salles, donc c'est super, à partir du mois d'octobre, c'est ça ?
C'est ça, on a deux grosses actus, donc on est très contents et On va être très content de vous en parler tout au long de l'émission avec Cliff qui nous rejoindra tout à l'heure aussi.
Cliff aussi en ligne. Voilà, bon, on aime les mensonges, mais la vérité, c'est que c'est un groupe qui, depuis combien de temps là ? Parce qu'il y a eu un premier démarrage 2020, plus Synthwave, et une reformation avec un nouveau producteur, donc Cliff Estatoff, donc qui est maintenant, qui a rejoint le groupe, qui se met à chanter avec toi d'ailleurs, Jen ?
Tout à fait. Donc, ouais, le projet date de 6 ans, mais un vrai nouveau départ il y a un an et demi avec Cliff à mes côtés. Et maintenant, on est à 50-50 et c'est plutôt cool.
Et c'est cool. En plus, j'ai rencontré de belles personnes, notamment une belle boîte de prod, Indigo Productions, hein, qui fait des superbes spectacles, qui fait notamment aussi U2 Experience, etc. Et donc, il vous a pris sur cette belle tournée, une vingtaine de dates. Hein. On va les détailler tout à l'heure, hein, évidemment.
Avec plaisir.
Donc, on peut voir déjà le titre, je disais qu'on aimait les Love Lies, on aimait les mensonges, parce qu'il y avait un beau clip tourné au Luna Rossa, si je puis me permettre.
Oui, oui, on a tourné le clip en mai dernier au studio Luna Rossa. Ils nous ont super bien accueillis.
C'est des amours.
Et encore un merci à Pascal, directeur de Luna, de nous avoir accueillis de cette belle façon. Voilà. Et,